Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans notre émission sur Radio B.
Nous sommes Julien.
Je me présente, je suis Youssouf.
Louis.
Et je m'appelle Diego.
Une émission enregistrée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Dans cette émission, on a voulu en savoir plus sur le monde des médias.
Au programme, des papiers et l'interview d'une journaliste.
Bonne écoute à vous.
Radio B. Radio B.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut se poser cette question. C'est quoi une information ?
Une information doit intéresser le plus grand nombre.
Elle doit être vérifiée par le biais de la confrontation de plusieurs sources.
Les sources, par exemple, ça peut être d'autres médias, des témoins directs d'un événement, ça peut être aussi des experts d'un sujet.
Elle doit porter sur un fait véridique et vérifié.
L'information est relayée par des journalistes, ils travaillent dans des médias.
Leur mission numéro 1, informer le public de différentes manières. Les lecteurs vont se diriger vers la presse écrite. Il y a aussi ceux qui écoutent la radio, regardent la télé, sans oublier ceux qui s'informent via Internet et les réseaux sociaux. Il y a plusieurs façons de s'informer. Et comme on vient de le voir, les médias s'adressent à tout le monde par tous les moyens.
Les journalistes sont protégés par la liberté de la presse.
La liberté de la presse, c'est la liberté pour les journalistes d'exercer leur métier, de nous transmettre des infos dans les meilleures conditions. L'association Reporters sans frontières produit chaque année un classement des pays par rapport à la liberté de la presse. À votre avis, à quel rang se situe la France ?
Je dirais peut-être 30e.
10e.
La France est classée 21e en 2024. Voici ce que dit Reporters sans frontières. Le paysage médiatique est assez large. Presse écrite, chaîne de services publics, médias privés, il y a de tout.
Par contre, une inquiétude.
Oui, celle de la concentration de certains médias aux mains de quelques hommes d'affaires. On peut citer Vincent Bolloré, le plus connu d'entre eux.
Dans l'émission Zoom Zoom Zen de mai 2023 sur la concentration des médias, les journalistes expliquent qu'aujourd'hui, 11 milliardaires détiennent 80% de la presse quotidienne généraliste, quasiment 60% de la part d'audience en télé et la moitié des audiences de la radio.
C'est énorme. Et Reporters sans frontières évoque un autre problème.
Oui, il parle aussi du contexte. Par exemple, au niveau légal, la liberté de la presse a pu être menacée avec la protection du secret de source remise en question. Et puis, les journalistes font face à un rejet et une méfiance de la population. Ils ont pu parfois être la cible de harcèlement en ligne ou même de violences physiques.
Bon, tout ça, c'est un peu inquiétant. Pour aller encore plus au cœur du sujet, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de rencontrer une experte du sujet. Fabienne Bruyère a longtemps été journaliste à l'AFP. Elle travaille aujourd'hui pour l'association Entre les Lignes.
Bonjour, enchantée.
Est-ce que vous avez vu une évolution du métier de journalisme entre le début où vous avez commencé et quand vous avez arrêté ?
Alors, le journalisme, c'est un métier qui évolue en permanence, au moins sur tout ce qui va être la partie technologique. Pour vous donner un petit exemple, moi, quand j'ai commencé à filmer, je filmais avec des caméras qui avaient des cassettes. Bon, aujourd'hui, il y a des journalistes qui font de la vidéo à partir d'iPhone. Donc, vous imaginez bien la différence de matériel. Donc, ça, c'est une évolution. Après, sur le fond, pas tellement, dans le sens où les fondamentaux de ce métier, qui sont le fait d'aller collecter l'information, rencontrer les personnes, vérifier les informations, ce fond-là, il est toujours le même que quand moi, j'ai commencé, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous raconter la fabrication de l'information ?
Comment ça se passe, la fabrication de l'information ? Alors, je vais parler vraiment pour le coup pour la manière dont moi j'ai travaillé. Parce que suivant si on travaille dans un média comme l'AFP, qui est une agence de presse, dans une radio, dans une télé, suivant les rubriques dans lesquelles on travaille, peut-être la manière va être un petit peu différente. Mais en gros, comment ça se passe quand on... Alors déjà, comment on décide de faire un sujet ? On décide de faire un sujet soit parce que... Alors d'abord, on fait un travail de veille, c'est-à-dire qu'on surveille ce qui se passe dans la zone sur laquelle on travaille, dans la rubrique dans laquelle on travaille. Ensuite, on échange beaucoup avec nos collègues et avec les gens. Donc chacun peut éventuellement repérer des sujets, dire bah, « Tiens, j'aimerais bien travailler là-dessus », etc. Donc ça, c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est qu'on a une hiérarchie, on a des chefs au-dessus de nous. Parfois, on peut avoir... à Paris, quelqu'un qui voit un sujet et qui se dit ben tiens, ça, je vais appeler Lyon et puis je vais leur demander s'ils peuvent le faire chez eux. Donc il y a ces deux possibilités. Soit ça va venir du journaliste qui, lui, va proposer un sujet qui va être validé par sa hiérarchie, soit en sens inverse, ça peut venir de la hiérarchie et demander au journaliste de couvrir quelque chose. Après, le principe de base du métier de journaliste de la fabrique de l'information, c'est d'aller sur le terrain. C'est-à-dire que quand on doit travailler sur un sujet, bah, on y va déjà. Je ne peux pas faire un sujet sur la fonte des glaciers si je ne vais pas dans les Alpes regarder les glaciers fondre, rencontrer des gens qui y vivent, rencontrer des gens qui travaillent avec les glaciers, rencontrer des géologues, etc. Donc la fabrique de l'information, ça va principalement être identifier où aller pour chercher l'information et vers qui se tourner, c'est-à-dire quelles vont être les sources d'information que je vais choisir pour construire mon sujet. Donc je vais choisir, suivant la thématique, bah, qui va pouvoir me donner des informations. Évidemment, je vais en prendre plusieurs, parce que mon rôle en tant que journaliste, ça va être de croiser les sources, c'est-à-dire d'aller chercher plusieurs pièces, parce qu'une information, c'est toujours un peu un puzzle. On va aller chercher plusieurs pièces, plusieurs avis, pour essayer de les rassembler, ce qui va nous permettre de proposer, on va dire, quelque chose qui se rapproche le plus possible de la vérité, en rassemblant toutes ces différentes pièces. Donc la fabrique de l'information, principalement, c'est ça. Après, moi, en caméra, il y a une partie technique de la fabrique de l'information. C'est qu'une fois que j'ai choisi mes interlocuteurs, où est-ce que je vais aller, etc., ben, il faut que je filme, et puis il faut que je rentre à la maison, que je me retrouve avec tout ce que j'ai enregistré, que je fasse un travail énorme de sélection, suivant le thème qu'on a développé, suivant l'angle du sujet, suivant ce qu'on veut faire passer. Donc en caméra, il y a ce gros travail aussi de sélection des images quand on rentre, de montage, c'est-à-dire d'assemblage des images, et après de diffusion. Et évidemment, il y a une validation avant diffusion. C'est-à-dire que tout ce qu'un journaliste produit est relu, revu par sa hiérarchie.
Vous étiez localisé au Moyen-Orient, Liban, Égypte, Syrie. En tant que journaliste, vous aviez des informations venant des pays occidentaux, de la France par exemple. Comment se confrontait-elle avec la réalité du terrain? Je pense à des annonces que pourrait faire un président de la République et un ministre des Affaires étrangères.
Alors ce qui est délicat quand on couvre l'étranger tout en étant français et donc on écoute des choses qui viennent de France sur des pays qui sont assez loin de la France, c'est qu'il y a souvent un décalage. Parce qu'on ne vit pas tout à fait dans la même réalité. Moi, quand je couvrais le Moyen-Orient, j'étais en contact permanent avec des gens du Moyen-Orient, des Libanais, des Égyptiens, des Syriens, etc., qui n'avaient pas la même vision de la réalité et du terrain que ce qui pouvait arriver par un politique de Paris. Après, je vous dirais que c'est un peu la même chose parfois en France, quand en province, il se passe quelque chose, et puis qu'il y a une déclaration d'un ministre, et les gens se disent « bah attends, c'est pas la même, on vit pas tout à fait dans la même réalité. » Donc il peut y avoir un petit décalage. Après, je vous dirais que moi, je traitais pas beaucoup ce qui arrivait de France, en fait. On traitait énormément. On était en contact avec des journalistes basés dans tous ces pays du Moyen-Orient pour remonter les informations de là-bas, donc du terrain là-bas, vers la France, et non pas l'inverse.
En tant que journaliste, est-ce qu'on peut vraiment être impartial?
Ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que c'est l'impartialité?
Bah pour moi, la définition de l'impartialité, c'est ne pas prendre parti, quoi, en fait. Être vraiment neutre et ne pas être pour un camp ou pour un autre. Et puis, voilà, c'est ça la définition de l'impartialité pour moi, quoi.
Très bien. Alors, complètement neutre, la réponse est non. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on va choisir un sujet, par exemple. Donc, ce sujet, il n'est forcément pas 100% neutre. On le choisit. Parce qu'on a parce que c'est quelque chose qui nous intéresse de faire. Donc ce choix-là, il n'est forcément pas 100% neutre. Après, impartial, c'est-à-dire ne pas prendre parti à l'intérieur du sujet, pour moi, oui. Parce que justement, si on fait ce travail d'aller chercher plein de sources, d'aller rencontrer plein d'interlocuteurs, de croiser leurs avis à eux, et qu'on sélectionne ces sources pour avoir des avis qui sont différents les uns des autres, et qui vont nous permettre justement de mêler tous ces différents avis, on n'est pas obligé nous-mêmes de prendre parti. Moi, je ne pense pas que si je regarde mes reportages aujourd'hui, alors je le fais pas tellement, mais je ne pense pas que dans mes reportages, on puisse sentir si j'étais pour ou contre un sujet. Parce que l'idée, c'était d'aller interroger quelqu'un qui est pour, quelqu'un qui est contre, quelqu'un qui a un avis différent, de mettre tout ça et puis de l'offrir à mon spectateur pour lui dire « Ok, avec ces différents points de vue, toi, tu vas te construire ton point de vue ». Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas mon point de vue en tant que Fabienne Bruère, journaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe différents points de vue sur ce sujet et que le téléspectateur ou le lecteur, il puisse se forger sa propre opinion à partir de ça. Donc si on en reste à ce qui est factuel, au fait, c'est-à-dire réellement qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, pourquoi, comment, on peut rester impartial. Après, à nouveau, la notion de totale neutralité ou objectivité, c'est quelque chose de, qui me paraît pas faisable. Tout simplement, regardez, quand on prend une photo, par exemple. Si je prends une photo dans cette pièce, je peux très bien imaginer montrer uniquement la partie vide de la pièce. Mais ce sera un choix de ma part. Donc, ce ne sera pas totalement neutre. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben, quand on choisit de traiter un sujet, il n'y a pas une totale neutralité. Par contre, on n'est pas obligé de donner son avis.
De votre point de vue, la liberté d'expression existe-t-elle vraiment ? Est-ce que vous avez été confronté à de la censure dans votre travail de journaliste ?
Alors, la liberté d'expression ou la liberté de la presse ? C'est-à-dire la liberté d'expression en tant que citoyen ou la liberté d'expression en tant que journaliste ?
C'est quoi la différence ?
La liberté de la presse, c'est une liberté qui vise à informer le public. La liberté d'expression, c'est le fait que chacun a le droit de s'exprimer librement. Donc c'est un tout petit peu différent. Quant à la question de la censure, moi, j'ai jamais eu affaire à de la censure dans ma carrière. Des cas de censure, je sais qu'il y en a, ça peut arriver. Alors il y a plein de manières de censurer un article. Ça peut être de l'autocensure. Ça peut être un journaliste qui se dit « Oulala, je vais peut-être pas me lancer dans ce sujet-là ». Parce que peut-être que c'est un peu trop touchy, peut-être que ça va m'apporter des ennuis, peut-être que je sais pas, donc celui-là, je vais pas le faire. Peut-être que ça peut être aussi parfois quand, suivant comment le média est financé, que l'article en question aille à l'encontre des intérêts de la personne qui finance, où là, ça peut parfois poser problème. Mais à nouveau, ça va vraiment dépendre de dans quel média on travaille. À l'AFP, moi, j'ai jamais eu connaissance de censure au sens propre du terme, où, en tout cas, un rédacteur en chef m'a appelé, m'a dit « Non, ça, ce sujet-là, interdiction, on le sort pas ».
Pour préparer notre émission, on a travaillé sur la concentration des médias. Pourquoi une majorité des médias sont aux mains de grosses fortunes aujourd'hui ?
Vous allez dire que je passe mon temps à vous retourner des questions, mais est-ce que parmi vous, il y en a qui payent un abonnement pour s'informer ?
Non.
Alors la réponse, elle est là. C'est qu'en fait, l'information, telle que je vous ai décrit la fabrique de l'information, ça nécessite des gens qui se déplacent, des gens qui font de la route, des gens qui prennent du temps pour passer des coups de fil, pour vérifier les informations, pour avoir plusieurs interlocuteurs au téléphone. La vérification de l'information, ça prend du temps, ça prend des moyens humains. Les journalistes, il faut les payer, c'est pas du bénévolat. Il y a un moment où forcément, si l'information est gratuite, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a la pub. Et puis, il y a des actionnaires qui mettent de l'argent pour que ça vive. Après, les actionnaires en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Le fait qu'il y ait des actionnaires, ce qui peut être problématique, c'est la manière dont les actionnaires se servent des médias. Puisque le média est forcément un instrument de pouvoir ou d'influence, à minima. Donc, s'il y a une bonne séparation entre la partie actionnaire et la partie rédaction, c'est-à-dire entre celui qui finance et ceux qui écrivent et qui publient. Pas de problème. C'est quand il y a une porosité, c'est-à-dire quand ça traverse entre les actionnaires et la rédaction, que ça peut commencer à devenir problématique, parce que là, on peut en venir, évidemment, à des cas de censure, à des cas d'orientation du point de vue, à travers une ligne éditoriale qui peut être un peu agressive, quoi.
Vous faites des ateliers autour de l'éducation aux médias et à l'information. Ça sert à quoi ?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça sert à venir parler de ce métier, le métier de journaliste, qui est un métier qui est assez peu connu, qui est connu, tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un journaliste, mais c'est pas un métier qui se raconte, c'est un métier qui est un peu renfermé un petit peu, on va dire, sur lui-même, ou en tout cas qui s'est renfermé, je pense, sur lui-même pendant pas mal d'années. Et moi, j'ai plaisir à aller parler de ce métier-là, à le faire découvrir, savoir comment ça marche, comment c'est sur le terrain. Ah oui, mais comment vous faites pour filmer tel ou tel type d'événement ? Comment ça se passe ? Il faut des accréditations ? Est-ce que vous avez une carte de presse ? Comment on l'obtient ? Tout ça. Voilà. Comment ce métier, il fonctionne ? Comme n'importe quel métier, au final. Mais c'est vrai que moi, c'est un métier que j'adore et que j'ai beaucoup de passion à aller expliquer, premièrement. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, le monde des médias est quand même très complexe. On en a parlé tout à l'heure. Le monde médiatique, c'est très vaste. Ça recoupe des choses aussi différentes que une télé, une radio, des réseaux sociaux, des sites internet, des journaux, des magazines, de la presse qui paraît une fois par mois, de la presse qui paraît tous les 6 mois, des réseaux sociaux qui sont faits parfois par des journalistes, journalistes, parfois pas par des journalistes. Donc il y a énormément d'informations qui arrivent auprès de tout le monde. On reçoit tous, tout le temps, plein d'infos, notamment à travers ces petits outils qu'on appelle des téléphones portables et dont on a beaucoup de mal à se débarrasser. Et dans tout ça, je trouve qu'il devient quand même difficile de trier, de savoir comment s'informer, de s'y retrouver un petit peu pour être un citoyen informé. Et c'est un peu ça le but de l'éducation aux médias et à l'information, c'est de, non pas d'amener des manières de penser, mais d'amener des clés pour se forger sa propre opinion, comme on disait tout à l'heure au sein du métier de journaliste, c'est-à-dire amener des éléments pour permettre aux personnes que je vais rencontrer de elles-mêmes se fabriquer leur opinion, mais se fabriquer leur opinion en connaissant ce monde des médias et en sachant comment il fonctionne pour s'informer de manière éclairée.
Selon vous, quel message transmettre pour réconcilier les citoyens et les médias ?
Là, je vais vous faire une réponse un peu délicate. Pourquoi ? Parce que les citoyens et les médias, pour moi, ça n'existe pas. Chaque citoyen est un individu différent. Chaque média, chaque journal est un média et un journal différent. Il y a des pratiques différentes. De la même manière qu'il y a des bons mécanos et des mauvais mécanos, dans les médias, il y en a qui font plus ou moins bien leur travail, avec plus ou moins de déontologie et de rigueur. Et donc, je ne sais pas si on peut réconcilier les citoyens et les médias. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que pour chaque citoyen dans un pays comme le nôtre, avec le nombre de médias qui existent, il y a un média, deux médias, trois médias, quatre médias qui correspond à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, et avec lequel on peut s'informer de manière éclairée à nouveau.
Parce que nous, on a vachement l'impression que les médias ont tendance à être orientés. Et du coup, on ne sait pas trop si leurs impôts sont vrais ou quoi en penser.
Donc là, on revient un peu effectivement sur la question du parti pris. Alors, on a parlé tout à l'heure, c'était la question plutôt du parti pris du journaliste, c'est-à-dire est-ce qu'il nous dit... Est-ce qu'il nous donne son opinion ou pas ? Personnellement, je trouve que ce n'est pas le rôle du journaliste de donner son opinion. On peut faire venir des experts, on peut faire venir des spécialistes de tel ou tel sujet pour donner leur opinion. Pour moi, le journaliste, il est plutôt là pour collecter les opinions. Après, effectivement, on a de plus en plus, on constate dans ce monde médiatique dont on parlait juste avant, qu'il y a plus d'opinions qu'avant. Mais c'est valable pas que chez les journalistes et chez les professionnels de l'information, c'est valable chez tout le monde. Prenez n'importe quel réseau social, c'est bourré d'opinions en permanence. Donc il y a effectivement un espèce de regain d'opinion. Dans les médias, ça se traduit par ce qu'on appelle une ligne éditoriale, ce qui est quelque chose qui existe depuis toujours. Un média, il a une espèce de carte d'identité, quelque chose qui définit un peu sa ligne de conduite et la manière dont il va traiter l'information. Et dans cette ligne éditoriale, eh bien, il peut y avoir, pas toujours, une orientation politique. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui vont être plutôt de droite, il y a des médias qui vont être plutôt de gauche. Est-ce que c'est un problème ? Oui et non, dans le sens où quand on est de droite, c'est intéressant d'aller regarder quelque chose de gauche. Quand on est de gauche, c'est intéressant d'aller regarder quelque chose de droite pour confronter les opinions. Mais ce qui est surtout important à avoir en tête, c'est de la détecter, cette ligne éditoriale. C'est-à-dire de savoir, quand je vais sur tel média, je sais, et c'est là qu'intervient à nouveau l'éducation aux médias et à l'information, c'est quand je vais m'informer sur tel média, je sais qu'il appartient à telle personne, que potentiellement ça lui donne une ligne éditoriale et politique plutôt de ce côté-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je choisis de m'informer sur tel média pour une information, je vais peut-être compléter avec un média qui justement va avoir un point de vue complètement différent, pour pouvoir faire ce travail de croisement. Ce que ça veut dire, ce monde-là, c'est que ça donne aux citoyens un travail un peu supplémentaire de devoir, lui aussi, comme le journaliste, en fait, nous, avant de vous transmettre les informations, on croise les informations pour que l'information soit vérifiée. Mais comme il peut y avoir, effectivement, une ligne éditoriale qui va mener vers quelque chose de plus politique, vous, en tant que citoyen, vous allez être obligé d'aller croiser ces informations aussi, non pas pour vérifier la véracité, puisque ce travail de vérification de la véracité, il a été fait, mais à nouveau pour la construction de l'opinion, c'est-à-dire pour se dire je vais confronter avec une autre ligne éditoriale pour me donner une meilleure idée de cette info-là.
Merci à elle pour son intervention.
Vous êtes toujours sur Radio B.
Je me pose une question par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce que les médias et les messages qu'ils nous donnent influencent nos votes ?
Bonne question. Dans une émission sur France Culture, une historienne et sociologue des médias, Isabelle Vera Masson, apporte des réponses.
Oui, j'ai lu l'article autour de l'émission. Voici ce qu'elle explique. En fait, cette question est très vieille. Elle date du XVIIe siècle. Richelieu aurait été le premier à utiliser un journal pour faire passer ses idées.
Et l'arrivée de la radio change tout.
Elle galvanise les personnes qui voulaient faire passer des messages. C'est une technique moteur et gratuite. Ce nouveau média remplace tout doucement la presse papier. Plus besoin de se déplacer pour acheter l'info. Elle vient à nous facilement.
Donc c'est un média puissant.
Deux écoles en sont persuadées. Celle qu'on appelle l'école de Francfort et celle de Chicago. Elles émergent dans les années 30. Et l'ascension d'Hitler au pouvoir leur donne matière à penser que la radio est importante dans la décision de vote.
Et pourtant...
Pourtant, c'est pas forcément le cas. Plus tard, avec l'arrivée de la télé, on imagine la même chose. Mais on oublie quelque chose.
C'est quoi ?
Paul Lazarsfeld, de l'école de Chicago, explique que les messages que nous recevons des médias sont filtrés. En gros, ça veut dire qu'avant tout, nous sommes des individus avec une culture, des croyances, un entourage. Ce qui nous arrive des médias passe par ce filtre individuel. Et ce sont plutôt des opinions leaders, des personnes autour de nous qui nous inciteraient plutôt à faire nos choix. En fait, ce sont plutôt nos interactions personnelles qui sont décisives.
Ok, donc les médias ne sont pas aussi puissants que ça.
Sur une action directe sur nos votes, la sociologue Isabelle Vera-Masson nous invite à relativiser.
Bon, alors, c'est quoi la conclusion de cette émission ?
Qu'il faut varier nos sources d'infos et essayer d'aller chercher de l'information un peu partout.
Qu'il faut aiguiser son esprit critique et toujours être vigilant quand une info nous semble polémique.
Et que le métier du journaliste, c'est pas aussi facile finalement.
En tout cas, on espère que vous aurez eu le plaisir à nous écouter.
Et que vous aurez appris des choses.
Continuez à vous informer.
À bientôt sur Radio B.